Washington, la voix de l'Amérique, Amigro Didier avec vous pour cette édition de Carrefour Sciences et Santé, un programme que je vous invite à suivre également sur le réseau Afrique Santé de la VOA. Quelques titres tout d'abord. Il faut renforcer les mesures fiscales publiques pour endiguer l'épidémie de tabagisme, estime l'Organisation mondiale de la santé.
Beaucoup d'études ont été faites sur le sujet, beaucoup d'analyses aussi sur l'efficacité de différentes mesures de lutte anti-tabac. Et c'est l'augmentation des taxes qui est la plus efficace pour réduire la consommation et du coup la mortalité et les maladies reliées au tabac.
Anne-Marie Perusic de l'OMS nous en dira davantage. L'océan tempère, le réchauffement climatique, au prix d'une altération profonde de son fonctionnement physique et chimique et de ses écosystèmes.
Le premier scénario, c'est celui qui est compatible avec l'accord de Copenhague qui vise à limiter à plus de 2 degrés le réchauffement de la planète. Donc c'est un scénario à relativement faible émission et forte mitigation. Et un second scénario qui est ce qu'on a appelé le business as usual, c'est le scénario sur la trajectoire duquel nous sommes aujourd'hui.
On suivra les explications de Jean-Pierre Gattuso de l'Observatoire océanologique de Villefranche-sur-Mer en France. Face à la résurgence de l'Ebola en Afrique de l'Ouest, la Banque mondiale suggère des options pour se préparer à la prochaine pandémie. Et au terme d'un périple de 9 ans, la sonde New Horizon arrive devant Pluton. Il faut renforcer les mesures fiscales publiques pour endiguer l'épidémie de tabagisme, estime l'Organisation mondiale de la santé. Trop peu de gouvernements prélèvent des taxes à un niveau suffisamment élevé sur les cigarettes et les produits du tabac pour vraiment décourager la consommation, selon le rapport de l'Organisation mondiale de la santé sur l'épidémie mondiale de tabagisme, édition 2015. Le rapport s'intéresse à la hausse des taxes sur le tabac. Bien que 33 pays prélèvent des taxes représentant plus de 75% du prix de vente au détail d'un paquet de cigarettes, de nombreux autres ont des taux de taxation extrêmement bas. Certains n'ont même pas instauré de taxes spéciales sur les produits du tabac. Alors, pourquoi cette faible fiscalité? On écoute Anne-Marie Perusic de l'OMS.
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les taxes ne sont pas prélevées. Premièrement, souvent les gouvernements ont peur que l'augmentation des taxes ne génère le commerce illicite. Et c'est souvent une idée un petit peu préconçue que l'industrie essaie de véhiculer pour empêcher le gouvernement d'augmenter les taxes. En fait, on sait que même si le commerce illicite a pour but l'évasion fiscale, ce n'est pas vraiment le niveau des taxes qui encourage le commerce illicite, mais bien d'autres comme la corruption, le contrôle des frontières qui n'est pas toujours très bon. Donc d'autres éléments qui sont vraiment très importants pour contrôler le commerce illicite.
Et en fait, comme l'a rappelé le docteur Margaret Chan, directeur général de l'OMS, la hausse des taxes sur les produits du tabac reste l'un des moyens les plus efficaces et puis les moins onéreux par rapport à l'efficacité pour réduire la consommation du tabac.
Oui, tout à fait. Beaucoup d'études ont été faites sur le sujet, beaucoup d'analyses aussi sur l'efficacité de différentes mesures de lutte anti-tabac. Et c'est l'augmentation des taxes qui est la plus efficace pour réduire la consommation et du coup la mortalité et les maladies reliées au tabac. Et aussi les moins onéreuses, aussi beaucoup d'estimations qui ont été faites là-dessus. Une estimation récente d'il y a quelques années, qui estime que ça devrait coûter environ moins de 5 centimes de dollars par tête par année pour mettre en place une bonne politique de taxation. Donc c'est vraiment une mesure à encourager.
Si on regarde le continent africain où les géants du tabac se rabattent parce que les marchés se ferment peu à peu en Europe, en Amérique du Nord. Si on regarde donc le continent africain où justement les pays ont du mal à imposer la fiscalité, en fait, pour les gouvernements africains, ça serait une façon de percevoir non seulement des impôts, mais de réduire un problème de santé publique qu'ils n'ont même pas les moyens d'affronter.
En fait, en Afrique, plusieurs pays africains, la consommation n'est pas encore assez élevée, ce qui fait que c'est vraiment un marché potentiel très important pour les compagnies du tabac et qui fait que, en effet, ils investissent beaucoup pour augmenter leur part de marché là-bas. Malheureusement, la consommation est en train d'augmenter et en même temps, les taxes en général sur les produits du tabac sont assez basses. Il y a donc un potentiel, on peut vraiment augmenter beaucoup les taxes pour avoir un impact important pour réduire la consommation, mais en même temps aussi augmenter les revenus, parce que ça peut être une bonne source de revenus pour les pays qui recherchent toujours des moyens d'augmenter leurs ressources internes.
Alors, la consommation du tabac, il est nécessaire de le rappeler, a été liée à un certain nombre d'autres maladies, des maladies non transmissibles, cancer, maladies cardiovasculaires et pulmonaires, et puis aussi le diabète.
Tout à fait. En fait, un des premiers rapports de l'OMS avait fait ce lien avec plus de 5, 6, jusqu'à 8 maladies et même relié aussi d'une certaine manière avec la tuberculose aussi, donc pas juste les maladies non transmissibles, mais certaines maladies transmissibles. Diminuer ce facteur de risque peut vraiment avoir une contribution très importante au niveau de la santé dans les pays.
On écoutait Madame Anne-Marie Perusic de l'OMS, elle était jointe à Genève. Camille Grodidé pour Carrefour Sciences et Santé que vous suivez sur VOA Afrique. Au moins 5 personnes ont été identifiées au Libéria comme souffrant de la fièvre à virus Ebola, signale l'Organisation mondiale de la santé. Toutes ont été repérées dans le comté de Marghibi. En fait, l'Ebola était toujours présent au Libéria quand la fin de l'épidémie y a été proclamée en mai. Le Libéria avait été officiellement déclaré exempt du virus de la fièvre hémorragique à Ebola le 9 mai, soit 42 jours ou deux fois la durée maximale d'incubation, après l'enterrement le 28 mars du dernier cas connu officiellement. Mais voilà, l'Organisation mondiale de la santé vient de déclarer sur la base de nouvelles analyses que l'Ebola n'a jamais vraiment disparu du pays. Selon la Banque mondiale, le nombre disproportionné de victimes d'Ebola parmi les agents de santé en Afrique de l'Ouest fait redouter un retour de la mortalité maternelle au niveau des années 1990 dans les pays d'Afrique de l'Ouest affectés par l'épidémie. Les décès d'agents de santé imputables à Ebola pourraient entraîner une recrudescence de la mortalité maternelle en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, où plus de 4000 femmes supplémentaires par an risquent de succomber à des complications pendant une grossesse ou encore un accouchement, précise un nouveau rapport de la banque. Pour parler de ce défi et des autres problèmes que les pays frappés par la fièvre hémorragique ont à relever, on écoute Bertrand Badré, directeur général et directeur financier du groupe de la Banque mondiale.
Il y a à la fois l'aspect pratique d'Ebola, qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce qu'on a bien ou mal réagi et surtout quelles leçons tirer pour l'avenir. Il y a à la fois effectivement d'abord les victimes de la maladie sur place, ensuite la capacité à mobiliser du corps médical localement ou de l'extérieur pour aider. Et donc effectivement la santé de ce corps médical est un élément important. Et puis dernièrement, même si c'est l'aspect le moins visible et peut-être le plus sec, les conséquences économiques de la crise. Et donc c'est cet ensemble de faits tous aussi dramatiques les uns que les autres et qui ensemble forment une catastrophe qu'il faut bien comprendre, non seulement pour finir de traiter Ebola, mais surtout pour faire que la prochaine pandémie, car il y aura une prochaine pandémie, on soit beaucoup plus réactif, qu'on soit capable de l'arrêter plus vite.
Au plan économique, les économies du Libéria, de la Sierra Leone, de la Guinée ont été largement dévastées par cette épidémie d'Ebola.
En général, on est très focalisé, c'est normal, on est des êtres humains, sur les décès liés à la maladie. Et le chiffre est tragique, on a plus de 10 000 morts à ce jour d'Ebola. Mais c'est toujours gênant de prendre cette perspective, mais les économies se sont largement arrêtés. Et pourquoi ? Parce qu'il y a un phénomène d'aversion. Les gens ne savent pas très bien ce que c'est et donc, dans le doute, ne commercent plus, ne voyagent plus, ne parlent plus, ne se rencontrent plus. Et petit à petit, c'est une économie qui se paralyse et c'est très difficile d'embrayer le phénomène. Et on voit bien qu'il s'exporte d'ailleurs, puisque les quelques personnes qui avaient été identifiées comme potentiellement porteuses du virus Ebola aux États-Unis ou en Europe ont eu des effets sur ces pays, alors que c'était une ou deux personnes cantonnées dans un ou deux hôpitaux. Donc on voit bien que le risque pandémique, il est à la fois très concret et en même temps, il parle aux esprits et il peut paralyser. Les Chinois l'ont bien compris quand il y a eu la SARS en 2003, mais on a eu les phénomènes récents en Corée du Sud sur le MERS. On voit bien que c'est des sujets qui ne sont pas encore compris, des sujets qui font peur et des sujets qui sont un vrai risque pour l'économie mondiale.
Et en même temps, pour garder une certaine perspective, des milliers de personnes meurent du paludisme en Afrique de l'Ouest tous les jours et les économies ne s'arrêtaient pas pour cela. Et
d'une certaine manière, vous avez absolument raison, il y a le paludisme et quelques autres maladies qui malheureusement sont dans les paysages depuis longtemps. C'est pas pour ça qu'il faut renoncer à lutter, beaucoup de moyens sont mobilisés pour ça. Ce qui inquiète dans ces pandémies, c'est la nouveauté. C'est le fait que c'est pas compris, c'est mal interprété, que tous les 3-4 ans, il y a quelque chose. H1N1, H5N1, SARS, Ebola. Le fait que les déplacements se multiplient, le fait qu'on mange plus de viande animale et donc que la probabilité qu'un virus passe de l'animal à l'homme est plus forte. Tout ça crée cette espèce de tension, je ne vais pas dire de psychose nécessairement, mais d'inquiétude. On est dans quelque chose de nouveau sur lequel à chaque fois il faut se battre, trouver des nouveaux vaccins, des nouveaux remèdes, et quelque chose qui, par l'aversion qui est créée, peut être un risque pour la croissance de plusieurs pays, comme ça a été le cas pour Ebola, mais au final, peut être un risque pour l'ensemble de la planète si, encore une fois, la maladie se répand très vite.
La planète a probablement davantage à redouter d'une épidémie de grippe. Alors, se préparer à la prochaine pandémie, comment est-ce qu'on peut s'y prendre ?
Alors d'abord, c'est éviter ce qu'on a fait à peu près à chaque fois, qui est qu'on a très peur au pic de la pandémie. Puis petit à petit, les choses se calment et on se dit « bon, bah, c'était pas si grave que ça ». Et on passe à autre chose. Donc il y a une espèce de sentiment d'urgence qui s'empare des gens, des dirigeants, au moment où c'est le plus grave. Et puis comme souvent, après, la vie continue et on passe à autre chose. Donc ce qu'il faut, c'est profiter du fait qu'on est encore, je dirais, très, très ému de ce qui s'est passé avec Ebola, très affecté par ce qui s'est passé avec Ebola, pour ne pas lâcher cette fois et se dire « il y en aura d'autres ». Le fait est que depuis 15-20 ans, on en a tous les 3-4 ans. Pour l'instant, elles ont été, je n'ose pas dire bénignes, parce que c'était quand même tragique à chaque fois, mais ça n'a rien à voir avec l'épidémie de grippe espagnole qu'on a eue après la Première Guerre mondiale, avec plusieurs dizaines de millions de morts. En partie parce que c'était une épidémie qui se transmettait par l'air, par la respiration. Donc, il faut qu'on prépare la prochaine. Et comment est-ce qu'on prépare la prochaine ? Il y a plusieurs choses. D'abord, il faut qu'on reparle des systèmes de santé. Il faut que, par exemple, dans chaque village, dans chaque communauté humaine, il y ait quelqu'un qui soit là, qui puisse dire « attention, il y a un problème ». Ça, c'est de la veille de base. Donc, retravailler sur les systèmes, avoir une approche horizontale et pas seulement une approche contre la malaria, contre la tuberculose. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on croise les deux approches. Il faut qu'on se prépare, c'est-à-dire qu'on identifie a priori qui est disponible pour aller où. Il faut qu'on travaille avec le secteur privé. On a beaucoup vu dans les pays atteints par Ebola, il y avait des problèmes par exemple d'accès à la téléphonie, aux télécommunications. Et après, des opérateurs de téléphone sont venus nous dire « mais si on nous avait demandé, on vous aurait prêté le matériel ». Des opérateurs de logistique ont dit « mais si vous en avez su, on vous aurait prêté des avions », etc. Donc il faut qu'on travaille avec le secteur privé pour voir qui est disponible pour faire quoi et qu'on ne réinvente pas la roue à chaque fois. Donc on est pratiquement sur une étagère, le plan, clac, et on sait qui fait quoi. Évidemment, tout ça nécessite des moyens, de la finance. Ça ne se fait pas gratuitement. Et c'est là qu'une institution comme la Banque mondiale peut aider, non seulement à définir les conditions de préparation dont je viens de parler, mais aussi comment on paye si quelque chose se passe. Et une des pistes sur laquelle on travaille aujourd'hui, sur laquelle on a des avancées assez sérieuses, c'est de voir comment on peut établir un mécanisme de type assurance. C'est-à-dire que au moment où la pandémie se déclare, elle est officiellement reconnue par quelqu'un qui pourrait être l'OMS, par exemple l'Organisation mondiale de la santé, à ce moment-là, l'assurance paye. Alors ça pose plusieurs questions. Qui paye la prime d'assurance ? Alors là aussi, vous pouvez dire que la pandémie, c'est un bien public mondial, donc tout le monde a un intérêt et des gens sont prêts à regarder ça. Le G7 en particulier nous a mandaté pour qu'on regarde ça. Après, comment est-ce qu'on définit l'assurance, comment on la calibre, etc. Donc on a des agences qui savent modéliser, on sait modéliser le risque de pandémie aujourd'hui. À partir du moment où on sait le modéliser, on sait probabiliser, donc on sait mettre un prix. Donc à partir de là, on rentre dans une logique très très différente qui nous permet, pour la prochaine fois, encore une fois, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, d'être prêt. Et si je peux prendre un parallèle qui montre que ce n'est pas irréaliste, on fait ça pour les catastrophes naturelles. On a les typhons, les tremblements de terre, etc. On a des assurances qui fonctionnent pour ça. On l'a fait, pour prendre un exemple très concret, très réel et très récent, nous avons mis au point, nous, Banque mondiale, avec l'aide du Japon, qui payait la prime d'assurance, un système d'assurance contre le risque catastrophe naturelle, donc typhons, tsunamis, tempêtes tropicales, pour les îles du Pacifique. On se fait ça, on a intermédié avec des compagnies de réassurance privées. Quand le Vanuatu était atteint par les tempêtes tropicales, nous avons été capables de payer en 2 semaines. C'est ça le mécanisme.
Si rapidement.
Absolument. C'est ça la nouveauté. Et donc, on sait le faire pour des catastrophes naturelles. Donc, il faut qu'on puisse adapter ça au risque pandémique. Je pense que l'approche assurantielle C'est une approche qui est un bon outil du développement. Alors c'est compliqué parce qu'il y a plein de réserves, il y a un travail éducatif à faire. Il y a des gens qui n'aiment pas les assurances parce qu'ils n'aiment pas les assurances. En gros, l'idée, ah bah vous savez, on a toujours un exemple dans sa famille de gens qui ont un problème avec les assurances. Donc on n'aime pas en principe. Il y a aussi la difficulté de payer une prime d'assurance. Parce que s'il n'y a pas d'accident, bah la prime, elle est entre guillemets perdue.
Oui.
Et celui qui aurait pu bénéficier du don dit, ah bah c'est idiot, vous m'auriez donné l'argent, j'aurais construit une école. Mais en même temps, c'est important. C'est-à-dire que si, c'est toujours le principe d'une prime qui paraît chère avant un accident.
Oui.
Donc c'est ça qu'il faut qu'on essaye de pousser. C'est pas évidemment la solution, mais c'est un élément d'un dispositif, je dirais, global qui permet de faire face à la prochaine pandémie et qui permet de prendre conscience qu'une pandémie, c'est pas limité au Libéria, au Sierra Leone et à la Guinée. C'est quelque chose qui potentiellement est pour l'ensemble de la planète. Et surtout, on fait le lien entre la préparation et la prime d'assurance.
Monsieur Bertrand Badré, directeur général et directeur financier du groupe de la Banque mondiale, il était de passage dans nos bureaux ici à Washington. Camille Grosdidier qui vous accompagne pour Carrefour Science et Santé, un programme que vous captez sur les ondes de la Voix de l'Amérique. L'océan tempère le réchauffement climatique au prix d'une altération profonde de son fonctionnement physique et chimique et de ses écosystèmes. Tel est l'avertissement d'une vingtaine de scientifiques internationaux regroupés au sein de l'initiative Océan 2015, en anglais Ocean 2015 Initiative. Dans cette étude publiée par la revue Science, ils préviennent les décideurs qui se retrouveront en fin d'année à Paris, en France, pour la conférence sur le climat, que les océans pourraient ne plus être en mesure de fournir d'innombrables services à l'humanité. Je laisse Jean-Pierre Gattuso de l'Observatoire océanologique de Villefranche-sur-Mer en France et premier auteur de l'article, vous expliquer les enjeux.
Les océans modèrent le changement climatique de plusieurs manières. Ils sont des acteurs, mais aussi des victimes de ce changement climatique. Tout d'abord, les océans absorbent plus de 90% de l'excès d'énergie lié à l'augmentation de l'effet de serre dû aux émissions de gaz carbonique dans l'atmosphère. 90% vont dans l'océan. Seulement 1% de cet excès d'énergie reste dans l'atmosphère et donc contribue au réchauffement global. D'autre part, les océans absorbent presque un tiers des émissions de gaz carbonique liées aux activités humaines et donc ils nous débarrassent d'une partie de ce gaz carbonique. Et enfin, les océans reçoivent la totalité de l'eau qui résulte de la fonte des glaciers et des calottes polaires. Cela se traduit par une augmentation du niveau de la mer. L'absorption de gaz carbonique se traduit par une acidification de l'océan parce que le CO2 est un polluant acide. Et enfin, l'absorption de chaleur, évidemment, provoque une augmentation de la température. Donc, à la fois, l'océan nous aide à modérer le changement climatique, mais en même temps, cela provoque le réchauffement, l'acidification et l'augmentation du niveau de la mer.
Quel va être l'impact sur les mers et océans? C'est cet assaut de toutes parts. Il y a cette masse d'eau douce qui arrive de la fonte des glaciers. Il y a l'acidification à cause des gaz à effet de serre. Quelle est la réaction pour le moment des océans?
Aujourd'hui, on détecte déjà des impacts de ces changements sur les organismes et les écosystèmes marins. Par exemple, les récifs coralliens qui sont en mauvaise posture déjà aujourd'hui en raison du réchauffement de l'eau de mer. Les coraux, lorsqu'ils sont soumis à un excès de température, ont tendance à perdre des algues qui sont essentielles à leur fonctionnement. Et donc, si le stress de température dure trop longtemps, les coraux meurent, ce qui met en danger l'existence même des récifs coralliens, qui par ailleurs ont une importance considérable dans la zone tropicale, en protégeant la côte de l'effet destructeur des houles et des vagues. Les récifs coralliens sont très riches et abritent beaucoup de poissons, donc c'est aussi une source de protéines. Et puis enfin, les ressources touristiques qui sont liées aux récifs coralliens. Donc ça, c'est la situation aujourd'hui. Le principal écosystème marin qui est affecté, ce sont les récifs coralliens. Donc dans cette étude, nous avons étudié qu'est-ce qui allait se passer dans le futur. Alors évidemment, ce qui va se passer dans le futur dépend des émissions qu'il y aura dans le futur. Et donc on a regardé deux scénarios. Le premier scénario, c'est celui qui est compatible avec l'accord de Copenhague qui vise à limiter à plus de 2 degrés le réchauffement de la planète. Et donc c'est un scénario à relativement faible émission et forte mitigation. Et un second scénario qui est ce qu'on a appelé le business as usual, c'est le scénario sur la trajectoire duquel nous sommes aujourd'hui. Et donc, on a contrasté ces deux scénarios et regardé quel était l'impact sur des organismes clés de l'océan et puis sur aussi des services que nous rendent les écosystèmes océaniques. Et donc, on s'est aperçu qu'en fait, avec le scénario à faible émission, évidemment, les coraux qui allaient être affectés, ainsi que les huîtres et les moules, ce qu'on appelle les mollusques bivalves, mais que les autres organismes et écosystèmes et services écosystémiques clés sont affectés de manière modérée. En revanche, lorsqu'on regarde ce qui se passe avec le business as usual scénario, eh bien là, on voit que la presque totalité des organismes que nous avons étudiés et des services écosystémiques que nous avons étudiés ont un risque d'impact fort à très fort. Donc, on voit très bien là l'enjeu pour les océans. Est-ce que COP21 va réussir à contenir les émissions de CO2 selon l'accord de Copenhague, ou bien est-ce que l'on va continuer comme on le fait aujourd'hui, ce qui serait absolument désastreux pour les océans. Ça va entraîner des changements qui sont pour certains irréversibles.
Est-ce que vos analyses ont porté également sur le plancton qui est à la base de la vie dans les océans?
Non, nous n'avons pas étudié le plancton dans cette étude, parce qu'on a voulu se focaliser sur un petit nombre d'espèces, soit clés, soit emblématique. Le plancton, effectivement, est très important dans l'océan. Ils font beaucoup de production primaire et donc c'est ça qui est à la base de la chaîne alimentaire. Des collègues ont travaillé dans le rapport du GIEC, par exemple, l'IPCC. Il y a beaucoup d'informations sur le plancton qui changent en fonction de ces changements climatiques. Il faut souligner qu'il y a certains effets qui peuvent être vus comme bénéfiques, c'est-à-dire que certaines plantes marines, certaines espèces de plancton ou même de plantes qui vivent au fond de la mer peuvent bénéficier de cet excès de gaz carbonique de la même manière que les arbres ou certaines plantes terrestres bénéficient de l'excès de CO2, c'est-à-dire que la production primaire, la fabrication de la photosynthèse peut être stimulée parce que les plantes ont besoin de CO2 et quand il n'y en a plus, eh bien, ça va mieux. Les effets positifs sont largement dominés par les effets qui sont négatifs.
Et en fin de compte, quel est votre message aux décideurs?
Cette étude a fourni 4 messages clés à l'attention des décideurs. On espère que ces messages clés seront entendus. Le premier message, c'est de rappeler aux décideurs que les océans nous fournissent d'énormes services et modèrent le changement climatique. Donc, il est extrêmement important de les préserver. Le second message, c'est que les impacts sur les organismes et les écosystèmes et les services écosystémiques vont arriver bien avant 2100, même avec un scénario contraignant de faibles émissions. Le troisième message, c'est que notre analyse montre qu'il est absolument indispensable de réduire donc ces émissions et si possible aller en dessous de l'accord de Copenhague. Et enfin, que les options qui visent à protéger, adapter et réparer les écosystèmes marins vont devenir moins nombreuses et moins efficaces au fur et à mesure que le CO2 va augmenter dans l'atmosphère et donc dans les océans.
On écoutait M. Jean-Pierre Gattuso de l'Observatoire océanologique de Villefranche-sur-Mer en France. Ici Washington, la Voix de l'Amérique, Camille Grosdidier avec vous pour Carrefour Science et Santé. On se tourne vers l'espace et sa conquête pour évoquer un périple de 9 ans qui est sur le point de s'achever et permettra, espèrent les astronomes, de percer les mystères de Pluton aux confins du système solaire. Je laisse Jacques Aristide expliquer.
La sonde New Horizons de l'agence spatiale américaine, la NASA, effectue le 14 juillet un survol historique de Pluton et de ses 5 lunes, conformément à sa trajectoire initiale. New Horizons avait été lancée il y a 9 ans pour percer les secrets de Pluton. La sonde se déplace à 49 600 km/h et sa trajectoire permettra de maximiser la collecte de données scientifiques. Des images déjà retransmises ont montré deux faces très différentes de Pluton. Sur l'une, on peut voir le long de l'équateur une série de taches sombres de 480 km de diamètre chacune, dont la superficie est équivalente à celle de l'État du Missouri, et qui sont espacées régulièrement. De telles taches n'avaient jamais été observées, ce qui suscite le plus grand intérêt dans l'équipe scientifique de New Horizons, surtout en raison de la régularité remarquable de leur espacement et de leur taille. On sait déjà que Pluton, découverte en 1930, possède une atmosphère formée d'azote, un système complexe de saisons, des caractéristiques géologiques distinctes et qu'elle est composée principalement de roches et de glace. La planète naine tourne autour du Soleil en 247,7 ans. Avec un diamètre de 2300 km, elle est plus petite que notre Lune et d'une masse 500 fois plus faible que celle de la Terre. Il reste à déterminer si elle possède un océan d'eau sous l'épaisse couche de glace, tout comme sa lune Charon ou encore une atmosphère. Après Pluton, la sonde New Horizons poursuivra son périple pour se rapprocher d'autres objets de la ceinture de Kuiper, vaste amas de débris au-delà de l'orbite de Neptune, datant de la naissance du système solaire il y a 4,6 milliards d'années.
Voilà, ainsi s'achève cette édition de Carrefour Science et Santé de la Voix de l'Amérique. Au micro, Camille Grosdidier, qui vous remercie de l'avoir suivie.